5. La pièce d'or. Starbuck, le premier second, avait raison, tout au moins durant les premiers mois de navigation. Du capitaine Ahab, nous n'entendions que les pas claquer sur le pont la nuit alors que nous tentions de dormir dans nos hamacs. Le jour, l'équipage luttait contre le froid, le vent piquant des mers gelées. Nous avions lâché les amarres le jour de Noël, les cales pleines de nourriture et d'objets, et il nous a fallu du temps pour atteindre un climat plus agréable. Près des côtes brésiliennes, sur la ligne de l'équateur, déjà la chaleur nous enveloppait. C'est toutefois à cette période que mon ami Quiqueg a eu des fièvres, au point de se faire construire un cercueil boué pour mettre son corps à l'eau, comme cela se fait dans son pays lorsqu'on meurt. Mais il était plus fort que la maladie. Quelques semaines plus tard, comme nous allons le voir, lui et les autres harponneurs allaient donner la preuve de leur courage. Pendant que Quiqueg luttait pour survivre, nous suivions le chemin des baleines, qui, à cette saison, nagent en groupe vers les eaux orientales, plus fraîches. C'est là que le capitaine a commencé à faire des apparitions sur le pont. Il ne dormait pas, il faisait des calculs, nuit et jour, avec son compas, analysait les signes pour suivre la route des cétacés et surtout celle de Moby Dick. Plus les eaux devenaient lisses, plus le capitaine semblait fiévreux, agité par la chasse imminente. Il n'avait pas l'air de vouloir profiter de la douceur de l'air, non, il guettait nerveusement, observait les eaux. J'en suis le témoin. Cet homme sans sommeil avait de la folie dans les yeux. Un matin très tôt, après son petit déjeuner, Ahab est monté sur le pont. Rien d'étonnant pour un capitaine. C'est là que vont se promener tous les capitaines le matin, pour prendre l'air, réfléchir à leur journée. Comme les gens qui habitent près des forêts vont faire un petit tour dans les bois, ou les gens qui vivent à la campagne se baladent dans les champs. Les hommes sont ainsi. Ils apprécient ces moments de solitude. Mais ce n'était pas l'habitude d'Ahab. Oh non! Ahab marchait de nuit, lors de ses insomnies. Nous l'entendions aux heures où nous étions censés nous reposer dans nos hamacs. Il marchait de long en large. Sa jambe taillée dans la mâchoire de son ennemi claquait violemment sur le pont. À tel point qu'un jour, Starbuck, agacé par ce claquement, lui avait demandé d'en protéger le bout avec un tissu. Que n'avait-il pas demandé? Ahab l'a insulté et ne lui a pas laissé dire un mot de plus en le menaçant de le frapper avec cet os qui lui servait de jambe. Ahab semblait apprécier le claquement de sa jambe qui marquait chaque nuit de son empreinte angoissante le bois du pont. Or, ce matin-là, ses pas avaient l'air de s'enfoncer plus profondément. Chacun d'eux marquait plus fort le chemin parcouru du grand mât au gaillard arrière et du gaillard arrière au grand mât. Et cela sans cesse, formant une boucle sans fin. Son front était tellement ridé, son air tellement soucieux, que si vous l'aviez regardé avec beaucoup d'attention, vous auriez sans aucun doute pu voir son projet de vengeance tourbillonner sans s'arrêter dans sa tête. Le mouvement de son corps boiteux reprenait exactement le mouvement de son âme, prête à exploser. « Regardez-le !» dit Stubb à Starbuck. « Il porte un poussin en lui, et ce poussin tourne dans sa coquille. Il frappe et va bientôt en sortir. » Toute la journée, Ahab a continué ce parcours entre sa cabine et le pont. Il montait, marchait, regardait, redescendait, puis remontait sans arrêt, dans un mouvement de va-et-vient continu. Plutôt qu'une marche méditative, c'était comme l'annonce d'une tempête. Sa nervosité augmentait. Soudain, il s'est arrêté, a bloqué sa jambe d'ivoire, et, se tenant à une corde, il a ordonné à Starbuck de réunir tout l'équipage à l'arrière du navire. « Capitaine !» s'est écrié le second, tellement surpris par cet ordre qui n'était jamais donné ou tout à fait exceptionnellement.
« Tu m'as bien entendu !»« Tout le monde à l'arrière »
a-t-il répété.
« Descendez des mâts, vous qui êtes là-haut !»
Les hommes se sont tous regardés les uns les autres, à la recherche d'une explication. Une fois réunis, ils ont tourné leur regard vers Akab. Ils étaient curieux et, en même temps, la peur commençait à les envahir comme si, à l'horizon, une terrible tempête s'annonçait. Quant à Akab, il leur a lancé un regard transperçant, puis il a repris sa ronde, comme s'il était seul sur le pont. Il a continué sa marche ainsi un bon moment, sans prêter attention au murmure des hommes qui s'étonnaient de plus en plus. Starbuck, ironique, a chuchoté.
Il nous a réunis pour qu'on admire sa démarche.
Quant à Cap, s'est brusquement arrêté et s'est exclamé.
Homme ! Comment réagissez-vous quand vous voyez une baleine ?
Nous crions !
Nous crions !
Nous crions !
Nous crions !
A répondu une vingtaine d'hommes d'une seule voix.
« Parfait !»
a répliqué Akab avec satisfaction.
« Et après, que faites-vous »«
On jette les pirogues à la mer et on la pourchasse !»«
Ouais,
Et quand vous la pourchassez, quelle est votre devise ?»«
Morte baleine ou pirogue perdue
oh, !»« baleine
L'excitation des hommes augmentait. Et en même temps, le visage du vieux capitaine infirme affichait une joyeuse cruauté. Mais les marins, tout de même inquiets, échangeaient des regards entre eux. Ils avaient l'air de se demander si c'était bien eux qui avaient répondu en criant ainsi. Et pourtant, ils ont écouté leur capitaine avec encore plus d'attention lorsqu'il leur a de nouveau parlé.
« Vous qui me connaissez, vous m'avez plusieurs fois entendu donner des ordres au sujet d'une baleine blanche, n'est-ce pas ?»
Ouais !
Crièrent les hommes qui avaient déjà navigué avec Akab.
« Alors vous tous, qui êtes ici réunis, regardez bien. Vous voyez cette pièce ?»
Il a levé une grande pièce d'or vers le soleil, si bien que les hommes en ont été éblouis. Et il a continué.
« Elle vaut 16 $. Vous m'entendez bien, les gars ? Monsieur Starbuck, passez-moi la masse, qui est là, à côté de vous. »
Pendant que le second attrapait la masse, Akab frottait soigneusement la grande pièce d'or sur sa veste. Puis il a pris la masse dans une main et il l'a levée. Il a avancé vers le grand mât. Dans l'autre main, il brandissait la grande pièce d'or en criant
« Celui qui le premier apercevra la baleine à la mâchoire de travers !» La baleine au front ridé, la baleine au corps marbré de blanc, la baleine dont la queue est percée de 3 trous, la baleine qui porte des harpons enfoncés dans le flanc. Écoutez tous, écoutez-moi. Celui qui le premier alertera, qui le premier criera
« Elle souffle !»
Celui-là recevra cette grande pièce d'or.
Et d'un coup de masse sec et violent, il a cloué la pièce au grand mât.
Ouah ! Ouah ! Ouah !
Ont hurlé les marins en agitant leurs mains pour montrer leur motivation face à cet or qui leur était promis.
Cette baleine est un cachalot blanc, ne l'oubliez pas. Un cachalot blanc !
Répéta-t-il en jetant la masse sur le sol.
« Regardez l'eau jusqu'à en perdre les yeux. Regardez l'eau pour voir si elle blanchit et s'il vous semble apercevoir la moindre bulle. Alertez l'équipage !»
Certains marins, dont Quiqueg faisait partie, l'ont fixé avec plus de surprise que les autres. Sursautant à chaque évocation des particularités du cachalot, le front ridé, le corps marbré, la queue percée, les harpons enfoncés,
« Capitaine ?»
a interrogé un marin.
« Ce cachalot blanc, est-ce celui que l'on appelle Moby Dick ?»«
Moby Dick !»
a hurlé le capitaine Akab.
« Alors comme ça, vous connaissez Moby Dick ?»«
Est-ce lui qui agite la queue comme un éventail et se redresse tout droit avant de plonger à la verticale ?»
demanda un autre marin.
« Est-ce lui qui a un souffle étrange, puissant et rapide ?»
a ajouté un autre.
« Il a 1, 2, 3, 4 et plus du fer dans le corps ?»
s'est écrié Quiqueg.
« Le fer est tordu comme,
comme...
Ne trouvant pas ces mots, il montrait avec la main le geste que l'on fait pour déboucher une bouteille.
Comme... un tire-bouchon, c'est bien ça. Oui, Quickegg, tu as raison. Ils portent dans le corps des harpons tout tordus comme des tire-bouchons. Oui et oui, vous avez raison. Il a un souffle étrange et il est blanc comme la laine des moutons de Nantucket. Oui, avant de plonger à pic, il secoue la queue comme une voile déchirée dans la tempête. Vous tous, marins, qui l'avez déjà rencontré, vous savez qui est Moby Dick, le cachalot blanc reconnaissable entre tous, l'unique. Vous l'avez déjà vu. Moby Dick. Moby Dick.
Capitaine, l'a interrompu Starbuck, est-ce Moby Dick qui vous a rendu infirme?
Qui te l'a dit?
Ahab s'est tu un instant et a repris.
Oui, Starbuck, tu dis vrai. C'est bien cette baleine qui m'a rendu infirme. Elle m'a pris ma jambe et m'a laissé avec ce bout de jambe en sang. Écoutez bien, les gars. Oui, c'est Moby Dick, cette maudite baleine qui m'a arraché une partie de la vie. Oui !
A-t-il hurlé en pleurant. Un pleur plein de violence et de haine, un pleur terrible d'un homme touché au cœur.
Oui ! C'est cette maudite baleine blanche qui a fait de moi un boiteux pour toujours. Et je la poursuivrai plus loin que l'enfer. Pour chasser ce cachalot blanc, je parcourrai les mers, du nord au sud, et d'ouest en est. Et vous allez le faire avec moi. C'est pour cela que vous êtes là. Serrons-nous les mains. Montez en haut des mâts. Celui qui le verra le premier, celui-là, aura l'or. Mais avant, croisons nos harpons et buvons.
Les harponneurs ont formé un cercle. Chacun a tendu son harpon de manière à ce que tous les fers se croisent au centre.
« Passez-moi la coupe !»
a ordonné Ahab. Et il a bu. Et il a passé la coupe à chacun des harponneurs réunis pour cette folle cérémonie. Comme des chevaliers chasseurs de cétacés, excités par l'argent et le combat qui nous attendait, nous avons bu le vin dans une coupe en étain. La folie du vieillard avait atteint tout l'équipage. Seul Starbuck avait l'air hésitant.
« Qu'as-tu, Starbuck ?»
lui a demandé Ahab.
« Tu ne veux pas affronter Moby Dick ?»«
Je suis d'accord pour attaquer sa mâchoire tordue comme les mâchoires de la mort si elle se présente pendant le travail que nous faisons. Mais moi, je suis venu pour chasser les baleines, pas pour venger mon capitaine. Combien de barriques d'huile gagneras-tu de ta vengeance ?» Pas plus qu'avec une autre baleine sur le marché de Nantucket. Le second a continué plus bas. Se venger d'un monstre muet qui a agi par instinct, c'est de la folie pure. Se mettre dans une colère folle contre un animal, c'est un sacrilège.
Ne me parle pas de sacrilège. Qui est au-dessus de moi? Je frapperais le soleil s'il m'insultait.
Mais... oublie cela, je ne voulais pas te choquer.
Regarde plutôt ces hommes, comme ils sont motivés. Regarde et constate, ils ne font qu'un avec Ahab. Ils ne font qu'un contre la baleine blanche. Allez, viens trinquer avec les autres.
J'ai trinqué avec les autres, moi aussi. J'ai été emporté par l'excitation, moi aussi. Et je n'ai fait qu'un avec Ahab. Mais après avoir bu, un sentiment de doute et de crainte m'a envahi. Pourquoi m'étais-je embarqué sur cet inquiétant navire, mené par un capitaine qui avait perdu la raison depuis longtemps?